au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Bonjour, bonjour, bonjour et bonjour. Pourquoi quatre fois bonjour, Louis de Bernis qui est avec moi?
Bonne question.
Parce que c'est quatre fois mieux qu'une seule fois.
Oui, ça c'est
moi, je
sentais
que Daniel Rioux, qui est au bout du fil, le saurait ça, hein, Daniel?
Ah, ben oui, il m'a pris de surprise comme Louis, hein?
Ah oui, je fais toujours ça, j'aime ça, vous taquiner comme ça.
Quatre morceaux de gâteau, c'est un peu trop, par contre.
Ouais, mais les bonjours, c'est pas trop sucré, c'est pas dangereux pour la diète, puis le cholestérol, je suis certain de ça.
Super!
Alors, c'est aujourd'hui le 23 février 2026, nous sommes le 54e jour de l'année, elle s'avance, et on va finir par finir de cet hiver. Je vais répéter les mots de cette charmante Dominique Michel. Je sais que c'est pas du bon français, mais c'est du bon québécois. J'ai Guy l'hiver. Oui, il en reste 311 jours à l'année, mais l'été s'en vient, au moins le printemps s'en vient. Fait qu'on va se garder un peu d'espoir. La météo aujourd'hui, rapidement, parce qu'il y a un avis de tempête hivernale dans les provinces maritimes. Ça veut dire la Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et l'île du Prince-Édouard. Alors, eux autres, ils vont y goûter. C'est la tempête, en fait, qui sévit sur la côte est américaine. Pardon, on attend 170 cm de neige à New York, imaginez-vous donc. Alors, on pense plus à 15-25 cm dans ces provinces-là. Et puis, il y aura évidemment ce qu'on appelle des vagues, hein, des vagues de tempête. Alors, soyez, les gens qui habitent sur les côtes, soyez vigilants. Alors, quand je dis les maritimes, ce n'est pas à l'Atlantique, parce que la journée sera beaucoup moins intense à Terre-Neuve, où la température reste au-dessus de zéro. Par contre, au Labrador, ça reste froid. Québec, Ontario... Hello tout le monde, on est épargné par cette tempête. On n'est-tu pas content? Alors, il y a peut-être quelques flocons ici, peut-être d'ici demain ou mercredi, un 2 cm. Ça reste quand même plus froid, là. La nuit, c'est autour de moins 15, moins 5 le jour. Même chose dans l'ouest du pays, hein, c'est moins 11 à moins 5. Et puis, c'est de la pluie sur la côte ouest. Bon, allez, on fait un petit tour sur le programme d'aujourd'hui. Daniel, une chronique où on parle du premier jour de la semaine ou du dernier jour du week-end.
Oui, en plein ça, parce que souvent, le dimanche, on a les blues. Il y en a qui ont les blues. Il y en a d'autres qui ne les ont pas, les blues en question. Donc, je trouve que c'est intéressant comme article et aussi peut-être comme moment de réflexion. Alors, là, on se pose la question, ce que nos dimanches disent de nous.
Oui, si on est vraiment là, à terre parce qu'on a trop fait la fête. La veille, il faut se poser des questions sur notre consommation d'alcool ou d'autres choses.
Oui.
Louis de Bernis, on ne parle pas de consommation avec toi.
Non, on parle... la semaine passée, c'était la Saint-Valentin, mais c'était aussi le carnaval de Rio. Et je vous parle donc un peu du Brésil, où la police a des méthodes insolites pour arrêter les voleurs, tout simplement. Ils se déguisent en super-héros, en plein de choses. Je vous donnerai la liste de tous les déguisements qu'utilisent les policiers pour se fondre dans la foule. Et puis, on parlera aussi de l'Italie. Pas des Jeux olympiques qui viennent de se terminer, mais d'une mésaventure, un homme qui a jeté par erreur des lingots d'or avant le passage des éboueurs.
Je vous dirai s'il
a réussi ou pas à les retrouver, mais 20 petits lingots d'or qui faisaient une belle somme.
Ben toi, si jamais il y en a trop, il peut me les envoyer sans aucun problème, je serais très heureux. Moi, je vais vous parler beaucoup de cinéma et de théâtre aujourd'hui. On va parler du film Dans la cuisine des Nguyen. On va recevoir le réalisateur Stéphane Lee Kwong et l'actrice principale Claude de Chevalier. Moi, j'ai vu ce film. C'est très drôle. Belle comédie musicale qui a commencé à déjà remporter des prix. Puis ils sont en tournée ici à Montréal pour faire la promotion du film. Puis on est chanceux. On les a en studio avec nous. On va parler aussi de Pakinao qui est présenté au centre du théâtre d'aujourd'hui. On va parler avec Soleil Lumière qui est l'autrice, metteuse en scène, performeuse et musicienne. Et puis, à ta gueule, l'obscurité, c'est au théâtre de Catu avec Rosalie Leblanc, une des comédiennes qui sera avec nous. Et puis là, ben nous, on est bien contents de pouvoir être dans le sud, hein, à Porto Vallarta. J'ai des amis qui sont là présentement. C'est pas très drôle. On va en parler dans les informations tout à l'heure. À tout de suite.
Comme un tourne d'eau, quand je veux me dégourdir le polo, mais que c'est l'heure de l'apéro. Je prends mon Segway, je roule parmi les fifouilles, les roulottes rétro. Je cherche des gens willing qui disent let's go, on veut faire un peu de cardio. Je sens mon jus de poche.
danse est top et tout est top notch pour un scotch en poche, baby scotch en poche. Dans la main gauche un breuvage, baby dans la droite un sac de grain. Scotch en poche, baby scotch en poche. Dans la main gauche un breuvage, baby dans la droite un sac de grain. Un savant mélange de social et de type de précision. Règlement facile, toujours tenir son breuvage en visant un trou rond. J'adore le feeling d'un bullseye en pleine déglutition. Je serai toujours partant, je ne verrai jamais le bout. Y'a pas de mauvais moment pour se partir. Scotch en poche, baby, scotch en poche. Dans la main gauche, un breuvage, baby, dans la droite, un sac de grain. Scotch en poche, baby, scotch en poche. Dans la main gauche, un breuvage, baby, dans la droite, un sac de grain. Scotch en poche, le mardi, un scotch en poche, le mercredi, un scotch en poche, le jeudi, une pause, le vendredi, un scotch en poche, le samedi, un scotch en poche, y'a pas de mauvais jour pour un scotch en poche, pis le dimanche, un scotch en poche, baby, scotch en poche, dans la main gauche, un breuvage, baby, dans la droite, un sac de grain, scotch en poche, baby, scotch en poche, dans la main gauche, un breuvage, baby, dans la droite, un sac de grain.
Bleu jeans bleu, scotch and poche.
C'est le temps de faire un petit tour des unes des quotidiens aujourd'hui. Bien évidemment, ce qui retient l'attention de tous les quotidiens, enfin de tous les médias, c'est le chaos dans l'État du Jalisco, au Mexique. La chute de El Moncho provoque une onde de choc. Alors, l'élimination de Nemesio Oseguera, alias El Moncho, par l'armée mexicaine hier a plongé l'État de Jalisco et les régions limitrophes dans une spirale de violence immédiate. Le chef du cartel Jalisco Nueva Generación, l'une des organisations criminelles les plus puissantes et violentes au monde, était la cible prioritaire des autorités mexicaines et des agences de sécurité états-uniennes. En réaction à sa mort, des membres du cartel ont érigé des barrages routiers et incendié de nombreux véhicules, incluant des bus et des camions, dans plusieurs villes, notamment Puerto Vallarta et Zapopan. Les violences se sont également propagées aux États du Michoacán et Guanajuato, illustrant l'étendue de l'influence de cette organisation. Alors, mesures d'urgence et impact sur les voyageurs. Affaires mondiales Canada a réagi promptement en relevant le niveau d'alerte, appelant les ressortissants canadiens à faire preuve d'une grande prudence. En fait, présentement, c'est peut-être pas une bonne idée d'y aller. Alors, à Puerto Vallarta, qui est une destination touristique majeure, une consigne de confinement est en vigueur et les services de transport, les taxis et le covoiturage sont totalement suspendus. La situation a forcé les transporteurs aériens Air Canada, Portaire et WestJet à annuler leur vol vers l'aéroport de Puerto Vallarta. Les témoins sur place rapportent des colonnes de fumée noire visibles depuis les zones hôtelières, les zones hôtelières et un climat d'incertitude marqué par des fusillades et des explosions à proximité des axes routiers. Je fais une petite parenthèse, je visite très, très, très fréquemment. Je ne vais pas cette année, mais je vais habituellement à Puerto Vallarta l'hiver pour quelques semaines. Eh bien, je voyais des magasins OXXO qui avaient passé au feu. C'est comme les dépanneurs couche-tard ici. Il y en a à peu près un à tous les coins de rue. Alors, c'est assez hallucinant pour une ville qui est réputée pour être très sécuritaire. Alors, juste pour vous dire, le département d'État états-unien offrait une récompense de 15 millions de dollars pour la capture de Oseguera avant son décès. Et on estime à près de 19 000 le nombre de Canadiens actuellement présents sur le territoire mexicain, dont environ 5 000 dans le seul État de Jalisco. Ce sont des gens qui se sont inscrits, hein, il y en a peut-être plus que ça, qui se sont inscrits auprès des ambassades et de tous les bureaux canadiens, en fait. Le cartel Jalisco Nueva Generación est officiellement classé comme une organisation terroriste par le Canada et les États-Unis. Et les autorités états-uniennes accusent ce cartel d'être un acteur majeur du trafic international du fentanyl, de cocaïne et de méthamphétamine. La Presse Plus ce matin, le projet Curam, un gouffre financier pour Ottawa. Le gouvernement fédéral fait face à un nouveau scandale informatique avec le projet Curam destiné à moderniser le versement des prestations sociales, vieillesse, assurance-emploi, pension. Initialement budgété à 1,75 milliard de dollars en 2017, la facture totale est désormais estimée à 6,6 milliards de dollars d'ici 2031, soit une hausse de 277%, presque trois fois. Ce dépassement de près de 5 milliards surpasse celui du système de paye Phoenix, tandis que faisant de Curam le projet technologique le plus coûteux de l'histoire du gouvernement canadien. La part du lion, évidemment, pour les firmes privées. L'enquête de la presse révèle que les consultants et firmes informatiques privées captent la majorité des fonds publics engagés. Sur les 6,6 milliards prévus, 3,4 milliards iront au secteur privé pour des services professionnels, de logiciels et des infrastructures. Alors, c'est les firmes Deloitte et Accenture qui sont les principales bénéficiaires avec des contrats dont la valeur a parfois doublé en cours de route. Et puis, on parle donc de 85 000 prestataires de sécurité de la vieillesse qui ont subi des retards, des problèmes de versement depuis l'implantation du logiciel en mars dernier. On va aller en Ukraine maintenant dans Le Devoir. Bien, c'est un bilan aggravé malgré les promesses de paix. L'engagement du président états-unien Donald Trump de mettre fin au conflit en 24 heures se confronte à une réalité de terrain par une escalade de violence. On se rappelle en 2025, première année du retour du président d'extrême droite à la Maison-Blanche, les attaques russes ont causé la mort de plus de 2500 civils, soit une augmentation de 31% par rapport à l'année précédente. L'intensité des frappes russes a été facilitée par une réduction draconienne de 99% de l'aide militaire en provenance des États-Unis en 2025, désarmant partiellement les forces ukrainiennes. Sur le plan territorial, l'armée de Vladimir Poutine a capturé 5600 km² de terres ukrainiennes en 2025, une superficie supérieure aux deux années précédentes combinées. Parallèlement, Washington exerce une pression croissante sur Kiev pour accepter un plan de paix en 28 points perçu par le président Zelensky comme une demande de capitulation. En février 2026, donc, malgré une légère reprise de terrain de 62 km² par l'Ukraine, les forces russes continuent de progresser, ayant avancé de 319 km² par le seul mois de janvier. Alors, j'ai le temps de vous parler des Jeux olympiques Milan-Cortina 2026. Alors, rideau sur ces Jeux d'hiver, c'est dans radiocanada.ca. C'est dans l'enceinte historique de l'Arena de Vérone que les Jeux de Milan-Cortina se sont officiellement clos hier. Sous le signe de l'opéra italien, le drapeau unifolié a été porté avec fierté par les patineurs de vitesse Valérie Maltais et Steven Dubois. Le Canada termine cette quinzaine olympique avec une récolte de 21 médailles, dont 5 titres de champion olympique, donc des médailles d'or. L'Italie cède maintenant la place aux Alpes françaises qui accueilleront les prochains Jeux en 2030. Fait marquant de la compétition, la Norvège termine au sommet du classement avec 41 médailles, dont 18 d'or. L'Italie, pays hôte, se classe au troisième rang avec 30 médailles d'or, 30 médailles en tout. Et juste pour vous dire que le Canada ne fait pas partie des 5 meilleurs pays comme il le fait depuis Lillehammer. C'est donc un recul pour le Canada.
J'ai pas peur que tu me vois. Je pleure déjà devant toi et je te connais pas. Mais passe pas le crachoir. J'ai beaucoup trop d'histoires. J'ai pas le goût, mais je suis là. C'est pas toi, mais tu me fais ni chaud ni froid. Ça veut peut-être dire que tu vas pas me détruire. La lune est pleine et moi j'en pars déjà debout. Je réapprends à peine à me tenir debout. Je sais pas si je veux un autre rendez-vous. Je sais même pas qui je serai au lever. Quelque part, emmène-moi quelque part.
Stéphanie Boulay, sa chanson « Si je pleure, c'est à cause de lui ».
Oui, il n'y avait pas de chanson en dimanche au soir à Montréal. Non, en tout cas. On va parler de... Bon, des fois, j'essaie. C'est pas toujours heureux, mon humour. Hein.
Mais c'est correct. C'est, ça donne un peu de joie. C'est agréable.
On peut pas blâmer un gars d'essayer. C'est ça.
Bien, on s'essaye.
On va parler de nos dimanches soirs. Comment est-ce qu'on sent le dimanche soir?
Comment qu'on sent le dimanche soir? Pour certains, le dimanche, en général, c'est un vertige qui est face au vide. Puis pour d'autres, c'est un temps sans contrainte. Et puis ce genre de sujet, je me dis, ça touche tout le monde, les auditeurs et nous-mêmes. Donc, ce que nos dimanches disent de nous, c'est dans Psychologie, justement, de juin 2024. Alors, c'est aussi le dimanche, c'est comparé à une sorte de décalage horaire. Puis vous savez comme moi, hein, que depuis toujours, on aime se réveiller sans l'horrible sonnerie du réveil matin qui fait chuter nos rêves. J'étais dans le meilleur, là, et les ampute à vif. Alors, c'est goûter au simple bonheur d'être. Pour certains, c'est un peu plus difficile. Et c'est difficile pour, d'après le psychiatre Florian Ferreri, 50% des Français subiraient ainsi ce moment de spleen, c'est-à-dire de l'ennui, de la lassitude, un manque d'énergie, l'appréhension aussi, qui est lié à la semaine à venir. Alors, 50%, et j'ai retrouvé dans l'intelligence artificielle dans Google que ce 50%-là revient, donc ça nous touche tous. On est perturbé par le changement de rythme ou d'habitude. Il y a certains qui souffrent de cette sorte de décalage horaire lors de cette journée que parfois on ne démarre jamais vraiment. T'sais, on voit l'heure de la partir, la démarrer, et qui aussi, ça peut être une journée qui peut sembler sans fin. D'autres qui sont de grands procrastinateurs se retrouve acculé ce jour-là à devoir accomplir toutes les tâches ingrates qu'ils ont repoussées le plus tard possible durant le week-end. Hein?
Oui, le ménage. Toiletter le chien.
aller promener le chien. Quand on était étudiant, c'est de faire des devoirs à dernière minute ou de préparer une chronique. Aussi.
Préparer l'émission à la dernière minute? Non, je fais jamais ça.
Non. Ou encore faire des courses. Il y a aussi les personnes qui sont de grands anxieux, qui s'angoissent juste à l'idée de la semaine à venir.
C'est moi ça.
C'est ça. Hein? Mm-hmm. Puis, votre blues dominicale, à vous tous, révèle peut-être un ras-le-bol professionnel ou encore une angoisse qui est plus existentielle, qui est liée à la routine et au sentiment de répétition qui pèse sur notre vie. Et d'ailleurs, dans l'article, on compare le tout à Camus, il y a bien un moment où Sisyphe lui-même n'a plus rien à faire. C'est quand il redescend de la montagne pour aller récupérer sa pierre en bas, il dit « j'ai plus rien à faire ». Donc, c'est ce que note le philosophe Gilles Verwitsch. Et puis, justement, c'est la fin du dimanche, c'est un peu c'est notre redescente à nous, c'est la pierre qui redescend de la montagne. Puis, le dimanche, en fin d'après-midi, nous sortons un peu la tête de la matrice pour apercevoir et sentir même l'absurdité du train-train quotidien de notre vie, c'est-à-dire on remonte la pierre jusqu'au haut de la montagne, encore paix pesante à ce moment-là. Le jour de repos, c'est sauf pour quelques professions, on doit s'entendre que quelques professions comme les restaurateurs, les soignants, les conducteurs de bus, etc., le dimanche, ça nous offre un temps de pause et de recul sur notre vie. C'est l'occasion aussi de faire un bilan intérieur qui nous est parfois douloureux. Et d'ailleurs, il y a une dame ici qui dit que lorsque j'étais célibataire, je détestais les dimanches, surtout au printemps, elle se souvient, parce que dans les parcs, elle voyait ses couples et ses familles flâner et s'amuser ensemble. Et ça la renvoyait davantage dans sa solitude et à sa difficulté de trouver quelqu'un, un bon compagnon dans sa vie. Notre rapport au dimanche questionne notre étape de vie, où on en est dans notre vie. Il peut être difficile à vivre, entre autres, pour les personnes âgées qui ne voient plus grand monde, ou encore une personne très âgée qui a vu tous ses amis disparaître et décéder et qui les retrouve pas pour jouer aux cartes ou parler au téléphone. Donc, il faut penser à ces gens-là aussi, hein. Il y a les jeunes retraités qui regrettent les dimanches où ils se préparaient pour la semaine à venir. Il y en a peut-être qui s'ennuient de ça. Ou ceux dont les enfants viennent de quitter la maison et qui se trouvent soudain confrontés à des dimanches beaucoup plus silencieux. La maison, c'est mort dans la maison. Ça bouge pas autant qu'avant. Cette journée nous renseigne aussi parfois sur ce qui nous manque, sur ce que nous aimerions changer, des fois. Ça nous ramène à nous-mêmes. La manière dont nous la gérons en couple en dit aussi beaucoup sur notre vie à deux. Voyez-vous, des fois, ça peut amener des tensions dans le couple ou des vides, justement, cette peur du vide. Alors, dans le temps avant la retraite, un couple, le mari... Le dimanche, les gens, le mari et la femme allaient au marché ou faisaient du vélo en famille, les enfants étaient à la maison. Mais avec la retraite, c'est pas tout à fait la même chose. Et d'ailleurs, c'est Solène, dans l'article qui le mentionne, la journée idéale de son mari aujourd'hui consiste à rester devant son ordinateur. Parce qu'il a perdu la routine de l'époque où il travaillait. Et pour elle, c'est un peu inintéressant. Et ça l'inquiète, car elle a l'impression qu'on ne vieillit pas de la même manière. Ça peut remettre en cause la vie de couple aussi. Et pour se ressourcer, il a surtout envie d'être seul, alors qu'elle, Solène, elle a besoin d'être active et de voir du monde. Donc, les deux personnes ne se rencontrent pas dans leurs besoins lors des dimanches. La force de prendre son envol, c'est un sport, expo, dessin, viré chez IKEA, office religieux, hein, pour qui... certaines gens allaient à l'église, c'est un rituel, donc ça comble une partie de leur matinée du dimanche. Ce qui compte ce jour-là, c'est finalement de trouver ce qui fait du sens pour nous. C'est même quitter à s'accorder en couple ou en famille une certaine indépendance. Donc, Solène, elle pourrait aller trouver une activité sportive et laisser son mari devant l'ordinateur ou aller à la bibliothèque. Et puis, elle va être aussi heureuse. Quand elle revient, elle a peut-être quelque chose à raconter. Puis lui aussi, on ne sait pas. Alors, lorsqu'on est angoissé par la non-activité, hein, je vous rappelle toujours la peur du vide qu'on a, c'est important de ritualiser. Peut-être se faire une liste d'activités à faire le dimanche, des activités agréables. Hein, là. Essayer d'éviter les tâches si possible. Plutôt qu'un rituel imposé, c'est-à-dire imposer un déjeuner de famille, tu sais, des activités imposées. Tu sais, il y a des gens qui vont voir leurs parents tous les dimanches pour jouer aux cartes, puis à un moment donné, ça devient pesant. Peut-être faire une distance par rapport à ça. Tu sais, des choses qu'on fait, qu'on a le goût de changer un peu. On peut créer de nouveaux rituels aussi, ce qui pimpe un peu notre dimanche, qui vont être plutôt choisis que subis, donc dans l'obligation. Par exemple, on peut faire une randonnée hebdomadaire ou un brunch improvisé entre amis, un appel téléphonique à une amie à 18h le dimanche, puis on aime ça, puis c'est notre ami préféré, envoyer donc. Puis apprendre à s'ennuyer aussi, ça peut nous faire beaucoup de bien. On n'est pas toujours obligé d'être en mouvement, toujours cette peur-là, hein, du vide, d'être efficace puis performant. Là, justement, parce que la paresse n'est pas une inertie de l'esprit. Elle laisse le temps à la pensée de se déplier. J'aime ça de même. C'est Lydie Salvaire qui le dit. Elle l'allaite et tendrement la berce, non point pour l'endormir, mais pour lui donner la confiance et la force de prendre son envol, cette paresse-là, là, puis d'entretenir son esprit avec d'autres choses. Et c'est parfois dans ces moments de latence apparemment peu productifs, hein, la peur du vide, que naissent tout doucement des idées qui infléchiront peut-être un jour le cours de notre vie. Ou peut-être donner un petit boost, là, un petit air d'aller pour dire, je pense à ça, puis j'ai le temps d'y penser. Ça fait longtemps que j'aimerais ça faire telle action, puis je la fais pas. Lundi matin ou le dimanche soir, tu écris une lettre à quelqu'un ou un courriel, puis tu lances une idée, puis peut-être ça va t'amener en quelque part. En fouillant dans Google, il y a des caractéristiques, des symptômes. Alors, si vous avez des symptômes comme les maux de ventre, ou vous sentez une nervosité, ou une certaine fatigue, ou vous ruminez aussi cette journée-là, le dimanche, ou encore vous avez des troubles du sommeil, ce sont des symptômes, justement, des blues du dimanche. Il y a les moments, entre autres, c'est souvent ce moment-là de blues est ressenti vers 16-17 heures. Puis, il marque, entre autres, la fin du du temps libre. Puis les causes, ben justement, on en parlait, c'est la peur de la routine, charge de travail qui est anticipée, un déséquilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, ou c'est carrément un changement de rythme biologique, une fatigue qui est accumulée. Et la fréquence, ben ça touche environ 50 % du monde. Donc, vous n'êtes pas seul à être à pas aimer le dimanche, à avoir les blues.
Ce n'est comment... pas... Donc, je ne suis pas anormal.
Non.
Pour une fois.
Ben, pour aussi, l'autre jour, je posais la question, c'est quoi être normal? Ben, vous n'êtes pas anormal du tout. C'est normal d'être comme ça. Puis, ben, justement, anticiper comment lutter ça, ben, préparer ses affaires aussi tâches du lundi à partir du vendredi. Donc, oui. Le linge est sorti, puis c'est fini, on n'en parle plus. Structurer, maintenir un rythme de sommeil régulier, faire des sorties, des activités agréables, regarder un film qu'on aime, lire un livre, prendre un bon bain. Aussi, se faire une gâterie le lundi matin, se faire préparer un bon café, là, ou une rôtie avec quelque chose qu'on aime dessus. Ça, ça fait du bien. Et puis, faire une liste dans la fin de semaine, vous pensez à quelque chose, écrivez-le sur une liste, ça enlève une charge mentale, ça allège l'esprit. Et si c'est trop, ben, une thérapie pour justement faire face à ce sentiment de blues du dimanche.
Ah, ben oui. Mais dans le temps, on allait à messe le dimanche. J'imagine que c'était un petit peu d'exercice, mettre à genoux, se relever. Puis...
Oui, ben on allait me mairer aussi, là.
Ben oui. Hey, merci beaucoup, Daniel Rioux.
Au revoir.
Après la pause, c'est au tour de Louis de Berdis nous parler de certaines nouvelles insolites. Et puis nous, on va parler aussi dans la cuisine des Nguyen. Tout de suite après la pause, je vous rappelle que c'est une tempête qui se dessine dans les provinces maritimes. Et nous, ben, on va avoir un petit peu plus de froid, mais on va éviter la grosse tempête des États-Unis. Et surtout, on reste à Montréal, on se retrouve pas à Puerto Vallarta dans la plus grosse tempête encore.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
La chanson 33 tours de Calande.
Ben oui, la chanson de... Je sais pas si c'est vrai qu'ils sont assez vieux pour se rappeler de ça. Ah, c'était le dessin animé Batman quand j'étais tout jeune, quand ça passait. Donc, ça a trahi mon âge. Pourquoi je fais jouer ça? Parce que Louis de Bernis, aujourd'hui, va nous parler de Batman, la Casa de Papel. Des policiers se déguisent pour arrêter des voleurs au carnaval de Rio.
Oui, on va au Brésil, à Rio de Janeiro. C'était la semaine passée. Nous, ici, on célébrait la Saint-Valentin. Ben, c'était encore plus festif au Brésil. Il y avait le grand carnaval de Rio. Et effectivement, je vous parle des policiers qui, cette année particulièrement, mais on va voir, c'est pas que cette année, étaient pour la plupart déguisés dans la foule en super-héros, aussi en tueurs en série. Ça, c'est plus original. voilà, c'est la scène qui s'est produite. D'après les autorités locales, une partie des agents se sont donc déguisés pour passer inaperçus. Et ça a permis d'arrêter certaines personnes, notamment dans un reportage qui a été diffusé devant les caméras. Deux personnes ont été arrêtées, un homme et une femme, qui avaient été au préalable en plus repérées à l'aide d'un drone. On les utilise partout maintenant, les drones, aussi pour repérer les voleurs. La suspecte en question avait été, par exemple, aperçue en train de dérober un téléphone portable d'un participant du carnaval de Rio, avant de le passer à son complice présumé. Pour s'approcher d'eux sans se faire repérer, les policiers portaient notamment des costumes représentant par exemple Captain America, Batman comme on vient de le dire, ou encore Jason Voorhees, le meurtrier du film Vendredi 13, ça c'est plus surprenant.
Oui.
Comme on peut le voir sur des images diffusées par les autorités, un autre était vêtu de la célèbre combinaison et du masque de la série de la Casa de Papel.
Oui, avec le fameux masque de Salvatore Dalí, là.
Exactement, oui, avec combinaison rouge et Salvatore Dalí. Et d'après la police, les deux suspects en question étaient déjà bien connus de la justice, avec notamment 30 mentions à leur casier judiciaire. La femme, par le passé, avait notamment simulé une grossesse pour ne pas être interpellée. Enfin voilà, on était sur des gens qui échappaient à la justice. Ils ont enfin été attrapés pour ces deux-là. Chaque année, ce sont des millions de visiteurs qui assistent au carnaval de Rio et qui sont exposés comme ça à divers délits mineurs dans les rues, de nombreux vols. Des téléphones portables, c'est ce qui est le plus dérobé. Un certain nombre de téléphones ont donc été récupérés cette année grâce à cette technique, dans le quartier notamment de Santa Teresa, et ont été rendus à leurs heureux propriétaires. Comme le rappelle le média britannique de la BBC qui faisait le reportage, le déguisement est une technique qu'on n'a peut-être pas l'habitude de voir, mais qui est assez répandue en fait par les forces de l'ordre en Amérique latine dans plusieurs pays. On pense par exemple au Pérou, dans lequel la police habille régulièrement ses agents avec des costumes à l'occasion de la Saint-Valentin, Halloween ou de Noël. En novembre, par exemple, des agents déguisés en Spider-Man avaient notamment découvert de la cocaïne et ça avait donné lieu à des photos cocasses avec les agents qui posent à côté de ce butin. Quelques mois auparavant, plus amusant, plus mignon peut-être, un policier déguisé en ours en peluche avait interpellé un homme soupçonné de trafic de drogue. Donc voilà, si vous voyez des costumes, ce sont peut-être des justiciers, des policiers qui se cachent en dessous.
On a parlé de Casa de Papel, il fallait que je vous fasse entendre un petit peu cette chanson.
La mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao. La mattina mi sono alzato.
Ben oui, je ne les ai pas fait chanter ou fait jouer, parce qu'on n'a pas le temps, mais tout le couplet ou le refrain complet. On sait Bella Ciao, c'est une chanson de révolte italien qui était quand même très connue pendant la Seconde Guerre mondiale, face aux troupes allemandes et surtout face aux fascistes qui étaient au pouvoir au pays à cette époque-là. On va peut-être chanter ça pas mal plus souvent dans les prochaines années, cela dit. On passe au prochain sujet qui est... En Italie, alors, on a jeté par erreur 20 lingots d'or à la poubelle. Écoute, ça pourrait être dans ma poubelle n'importe quand, je ne dirai rien.
Ben oui, c'était un monsieur en Italie qui a voulu faire peut-être un peu de ménage de printemps avant l'heure. Ça va peut-être nous arriver aussi. Donc, la leçon à tirer de cette histoire, faites attention à ce que vous jetez. Parce que cet homme s'est peut-être un peu emballé. Il a 57 ans, cet Italien. Et il a jeté à la poubelle une boîte assez importante, on va dire, qui avait une certaine valeur. Ça s'est passé dans le hameau de Porto Cesareo, c'est dans le sud-est de l'Italie. Le protagoniste, donc, un habitant de 57 ans qui, au fil de sa vie, avait investi ses économies il ne les a pas mis à la banque. Il a investi dans de petits lingots d'or qu'il conservait précieusement chez lui dans une boîte. Au total, le quinquagénaire avait accumulé une vingtaine de petits lingots d'or comme ça. Valeur estimée, plus de 130 000 euros tout de même, une somme rondelette. Et en faisant récemment du tri chez lui, cet homme a placé par inadvertance la boîte parmi les objets à jeter. C'est ainsi que les 20 lingots se sont retrouvés à la poubelle. Lorsqu'il s'est aperçu de son étourderie, c'est le moins qu'on puisse dire, le quadragénaire s'est précipité dans la rue où il a retrouvé sa poubelle vide. Il avait manqué à quelques minutes les éboueurs. Il ne lui restait à ce moment-là que ses yeux pour pleurer. Dans un ultime espoir, il a appelé les carabinieri, la gendarmerie italienne, pour expliquer sa mésaventure, confier son désarroi. Les militaires, en le voyant ainsi peiné, ont rapidement déclenché une enquête. Une opération dans la déchetterie locale a été initiée. Difficile toutefois de s'y retrouver parmi la montagne de déchets qui arrivait régulièrement. Ils ont exploité la vidéosurveillance qui a permis de restreindre un peu la zone de recherche, ne pas avoir à fouiller partout. Et grâce à l'aide ensuite des éboueurs qui ont mis du leurre également. Et après, l'histoire ne dit pas combien de temps ça a duré, mais il y a eu des grosses fouilles. La boîte et les lingots, heureusement, ont été retrouvés. L'or restitué à son propriétaire, donc, qui aura une belle anecdote à raconter, qui fera peut-être plus attention quand il fera du ménage chez lui la prochaine fois.
À la suite de cet événement, d'ailleurs, on dit toujours que l'argent n'a pas d'odeur, mais dans ce cas-ci, l'or en avait certainement.
Sûrement.
Ah, les déchets de l'un, c'est le trésor de l'autre. On arrête là-dessus, Louis. Merci
beaucoup.
Bonne
semaine.
Éternel et parfait néanmoins, je confirme ma présence. Non pas le premier ni le dernier, je suis dans la mouvance. Le vrai n'est plus ce qu'il était, non. Je côtoie la démence. Je tête le sein du diable qui m'allaite. J'entretiens ma dépendance. Les horreurs n'arrêtent jamais, c'est un vrai plan séquence. Les voix à qui on a donné un micro brillent par leur silence. Steak, blé, dinde, patate, c'est fini. Le monde est à ta porte. Des munitions tirées sur des gaz, ah oui, sont faites au Québec, mon pote. Le fleuve coule dans mon sang, laisse faire la souche, fière nouvelle branche. Alouette, alouette, je t'aime, on assure ta descendance. La vie c'est une grosse joke, une plaisanterie, t'en ris ou tu sautes. Le futur m'inquiète, à quiconque en haut, j'implore la clémence. Je rêve au coin d'ombre, au fond du jardin, je rêve au jour où j'aurai à ta demain. Je rêve au coin d'ombre, au fond du jardin, je rêve au jour où j'aurai à ta demain. Je rêve au coin d'ombre, au fond du jardin, je rêve au jour où j'aurai à ta demain. Je rêve au coin d'ombre, au fond du jardin, je rêve au jour où j'aurai à ta demain. Je rêve au coin d'ombre, au fond du jardin, je rêve au jour où j'aurai à ta demain. Je rêve au coin d'ombre, au fond du jardin, je rêve au jour où j'aurai à ta demain. Je rêve au coin d'ombre, au fond du jardin, je rêve au jour où j'aurai à ta demain.
Les louanges avec sa chanson « Je confirme ma présence ».
Découvrez notre nouveauté, les Memisa aux saveurs italiennes.
Figuration jeune femme brune méditerranéenne.
Bonjour, j'ai pour l'audition. Yvonne Nguyen.
Bravo tout le monde, hein. Et on a fait 6 euros.
6 euros ?
Ouais.
Faut que t'abandonnes la comédie musicale. On a toujours besoin de prospecteurs téléphoniques.
Mais qu'est-ce que tu fais ?
Je dois avancer.
Coucou maman.
Congai. Qu'est-ce que tu fais ici?
Nhưng mà phải làm sao với con đây?
Mais moi ça va très bien.
Nhưng bây giờ con ở đây, con không có chồng, chẳng có nghề.
Tu fais de moi?
Non, moi c'est Yvonne.
Je vois une geisha, une vendeuse de bubble tea sur la place Tiananmen.
Un conseil chérie, si tu veux travailler, tu fais ce qu'on attend de toi. Pour une fois que je peux passer une audition pour un vrai rôle dans un grand spectacle...
Sympa pour moi.
Toi, t'es con, ouais, là, y'a un mêlé.
T'es contente de faire ça, toi?
Complique-toi, je te parle, t'es gros nao.
Trois pas de danse, en souliers rouges. Sur leur tempo, tout le monde se bouge. Remember my name, Yvonne Nguyen.
T'es complètement aveuglé parce que tu passes une audition pour un gros projet. Ils t'ont mis dans une case, Yvonne.
Con nhớ ba nói gì không? Mình có tài, phải cho đi.
C'est rare que je fais ça, de faire jouer entièrement la bande-annonce d'un film, mais cette bande-annonce était même quand on ne voit pas les images, on a le goût, on comprend ce qui se passe. Alors, c'est la bande-annonce du film « Dans la cuisine d'Nguyen ». Nous recevons aujourd'hui le réalisateur Stéphane Lee Kwong. Bienvenue à l'émission. Et la comédienne Clotilde Chevalier, qui joue le rôle principal donc de Yvonne Nguyen, pour cette comédie musicale qui sort donc le 5 mars ici au Québec. Ben, je vais commencer avec... Bienvenue tous les deux à l'émission d'abord. Puis on est très contents de vous recevoir. Vous êtes arrivés de Paris quand, là?
On est arrivé jeudi soir.
Ah, quand même, vous avez eu le temps de se faire un peu au décalage horaire et au froid.
Exactement.
Bon, ça va. Stéphane, je vais commencer par vous. Vous nous offrez ici un récit qu'on appelle un récit de filiation, d'émancipation, entre une maman restauratrice et sa fille qui rêve de scène. Clotilde, vous incarnez Yvonne, cette jeune femme tiraillée entre l'héritage familial et la passion pour le spectacle. Stéphane, pourquoi avoir choisi le style de la comédie musicale plutôt qu'un genre plutôt traditionnel pour raconter cette histoire?
Alors en fait, la première raison, c'est que j'adore la comédie musicale, donc je trouvais que c'était une bonne raison.
Oui, moi.
Mais
oui.
Plus sérieusement, je trouve que c'est un genre qui nous permet de nous évader, d'amener beaucoup de poésie et de magie dans la réalité. Et j'avais envie de vraiment creuser l'écart entre une mère extrêmement terre-à-terre, pragmatique, et une jeune femme qui veut être... comédienne, mais pas juste comédienne, comédienne de comédie musicale, donc quelque chose qui peut paraître complètement abstrait et irréalisable pour une mère qui rêve de choses plus solides et traditionnelles.
Mais une maman qui est arrivée en France à un moment où elle doit s'organiser pour financer sa vie, faire vivre ses enfants et voit pas vraiment Yvonne, je l'appelle Yvonne, ça commence bien.
Il y a pas de problème.
donc, c'est un peu cette histoire où il y a cette nouvelle génération qui dit, ben non, moi je suis française, je veux faire les choses comme je veux. Alors, comment ça s'est passé, cette rencontre, justement, Clotilde, entre Clotilde et Yvonne?
Eh bien, assez simplement, finalement, parce que Yvonne... c'est un écho et on a un peu la même vie professionnelle.
Ah bon?
Oui, c'est-à-dire que moi, j'ai vraiment sorti de mes études classiques. Je voulais faire de la comédie musicale et bah voilà, avec mon visage très asiatique, j'étais confrontée exactement au même problème que Yvonne. C'est-à-dire que voilà, c'était bon, il y a 20 ans et voilà, de se dire je veux faire de la comédie musicale, mais il n'y a pas de rôle sur scène pour moi. Ça a été vraiment compliqué parce que nous, à l'époque, bah voilà, on a Chicago qui, enfin, il y a Chicago Cabaret qui se monte, mais on n'est pas du tout dans des visages asiatiques. On a le Roi Lion, bon, ok, on peut y penser un petit peu. Ou alors, on a Mamma Mia, mais pareil, en France, c'était impossible, même dans l'ensemble, d'avoir ce type de faciès, on va dire, et de personnages. Et après, j'ai essayé un peu au théâtre, j'ai essayé un petit peu en chanson, etc. Mais j'ai été vraiment confrontée à trop de clichés, à trop de boîtes dans lesquelles je ne rentrais pas. En fait.
Oh, c'est incroyable parce que après, moi, je ne vous connaissais pas avant de voir le film. Et quand je vous ai vu, je me suis dit, mais comment ça se fait que cette personne-là, on ne la connaissait pas avant? Oh. Alors, parce que c'est vraiment, on va y revenir, mais vraiment, c'était beaucoup de talent, beaucoup de choses. Tu sais, je vous voyais danser, chanter et tout. C'était vraiment bien réussi. On va y revenir parce que j'aimerais justement retourner sur cette espèce de dichotomie, hein. Il y a la cuisine vietnamienne. Alors, faut sans trop révéler ce qui se passe, mais il y a la maman qui a un restaurant. On parle des NEM, entre autres choses.
Oui, bien sûr.
Et comment on chorégraphie le restaurant, la comédie musicale?
Eh bien, en fait, chaque univers a sa propre chorégraphie, évidemment, oui. C'est vrai que la comédie musicale, c'est quelque chose de très codifié. Donc, on a la chanson, la musique, la danse, qui implique un certain nombre de répétitions. C'est un langage cinématographique, c'est un langage que j'aime. Donc, c'est quelque chose avec lequel je me sens à l'aise et dans lequel je me suis vraiment bien amusé. Et c'est vrai que la cuisine, c'est aussi une autre chorégraphie. Mm-hmm. Donc, pour ça, on a fait appel déjà une consultante qui est une experte de la cuisine vietnamienne, une amie que je connais bien, pour être sûre de bien faire les choses. Et on est au cinéma, donc les choses doivent être jolies aussi, mais pas trop, parce qu'on a envie qu'elles soient réalistes et que ce n'est pas une publicité. Donc voilà, il y avait toute une chorégraphie, une répétition aussi d'une certaine manière, parce que j'ai choisi certains plats qui sont pas toujours simples, notamment le gâteau du Nouvel An qui demande, oui, un certain type de préparation. et en même temps des plats emblématiques comme les nems ou les raviolis, les benkoun. Mais voilà, pour moi c'est important de mettre en avant la cuisine comme forme de langage dans une famille et plus généralement dans une culture où l'amour, l'affection ne s'exprime pas par la parole.
Ouais, parfois par la bouffe, hein.
Oui, ah, oui. Très souvent, très souvent.
Clotilde, juste là-bas, en parlant de vous, vous êtes retrouvée dans un univers où il y a 41 chansons, si j'ai compris, 41 titres dans le film, si je ne me suis pas trompé, là, la bande originale.
Et un peu moins de chansons. 41, ça doit être avec les instruments.
Avec les instruments.
Oui, mais elle en a beaucoup quand même. C'est elle qui chante la plupart des chansons.
Alors, des morceaux très Broadway, la vie en comédie musicale et aussi des trucs plus ancrés dans la culture vietnamienne. Je ne t'ai même pas demandé, vos origines sont vietnamiennes aussi ou pas?
Non, pas tout à fait. En fait, je suis née en Corée du Sud, moi.
Alors, voilà, en plus, il y avait cet autre défi. Des chansons plus entrées dans la culture. Je pense à la recette des banh cuốn, je vais le prononcer comme il faut. Quel a été le défi là, pour cette exigence vocale, d'une part, parce qu'il fallait chanter, et physique, parce qu'il fallait danser?
En fait, oui, c'est un vrai défi. Et chaque numéro était un défi en soi, mais c'était un projet tellement excitant, tellement intéressant. Et puis voilà, avec Stéphane, ça fait plusieurs années qu'on se connaît, on a déjà travaillé ensemble. Donc j'avais vraiment envie de le faire et peu importait en fait le défi. J'avais envie de le relever par rapport à la langue. Ouais. Effectivement, je ne parle pas vietnamien et c'est une langue qui a beaucoup d'accent, qui a beaucoup de subtilité. Quand c'est transposé en chanson, il y a des notes. Donc parfois, il faut faire attention à être juste, bien sûr, dans la voix, mais à ne pas déformer le mot parce que c'est beaucoup, encore une fois, beaucoup très accentué. Et donc, pour le coup, j'avais Stéphane qui m'enregistrait tous les textes, tous les mots, et puis ça tournait en boucle, dans ma tête tous les jours, avant de dormir, en me levant, etc. Et après, la chance que j'ai eue, c'est que Clovis, qui a écrit la plupart des chansons, Clovis Schneider, a aussi travaillé en fonction de la mélodie naturelle du texte et a fait quelque chose que je trouve vraiment très, très joli, très, en s'inspirant vraiment du phrasé naturel, quoi.
Vous êtes chanteuse quand même dans la vie ?
J'étais.
Donc, c'était pas nouveau, mais fallait donc partir à zéro, là, apprendre la langue, du moins les répliques. C'est pas facile. Quelle sorte de travail, j'ai entendu que vous parliez d'avoir entendu là, des cas d'enregistrement, mais pour apprendre les répliques, apprendre à parler, comment vous vous êtes pris?
En fait, vraiment, c'est pour le coup, c'est juste de la répétition entre guillemets, bête ouais. et méchante, ouais. vraiment pour comprendre, d'avoir le rythme, etc. Comme je vous ai dit, enfin voilà, je suis chanteuse, comédienne, danseuse sur le film, ça a été donc mon premier métier. Mm-hmm. Mais depuis 10 ans, moi, j'ai choisi un autre métier parce que, bon, sans spoiler, contrairement à Yvonne, j'ai changé un peu de voix et maintenant, je fais de la cuisine. Et voilà, ouais. je suis chef de cuisine, rien à voir et à voir en même temps. Et c'est vrai que quand Stéphane m'a dit « Ok, le projet, j'ai envie quand même que ce soit toi qui fasse Yvonne dans le film », il a fallu quand même que je me remette à travailler tous les basiques.
Ouais. Donc,
une chance que j'avais, c'est que je continue à travailler le chant, mais il a fallu que je me remette à la danse, que j'apprenne à monter sur des rollers, que enfin, il y a eu quand même des défis physiques, etc. Et
vous êtes encore amis, hein?
Oui.
Tout se passe bien.
Oui, tout se passe très bien. Mais je crois juste que comme c'est un projet qui date maintenant, on a eu quand même du temps de répétition. Mm-hmm. Contrairement à un projet où on peut nous appeler et se dire, bah voilà, c'est dans 2 mois, on commence à tourner. Non, moi, j'ai pu me préparer des mois et des mois à l'avance. Encore une fois, comme je disais, pour les chansons, Clovis a créé au fur et à mesure et je l'aidais à distance. Enfin, voilà, on échangeait beaucoup. Il a vraiment écrit la musique pour ma tessiture parce que je ne suis pas une soprane classique. J'ai une voix un peu plus basse. Et donc, voilà, tout a été fait au fur et à mesure et j'ai pu m'imprégner du personnage au fur et à mesure, apprendre les répliques au fur et à mesure et c'est ça qui a été très confortable pour moi, en fait.
J'ai l'impression que vous avez eu beaucoup de plaisir dans ce film-là. Est-ce que je me trompe? Parce que moi, quand je regardais, je me disais, mais ces gens-là ont vraiment du plaisir à faire ce qu'ils font.
Ben, je suis content que ce plaisir et cette joie se transmettent à travers le film. Pour moi, c'était vraiment important de composer une famille, une équipe, que ce soit aussi bien l'équipe artistique, de comédiens, de chefs de poste, de techniciens. C'est mon premier long métrage et pour moi l'aspect humain est aussi important que l'aspect artistique. Et j'avais envie que, en arrivant chaque matin sur le plateau, j'ai aussi du plaisir à retrouver toutes ces personnes-là. Donc oui, on a eu du plaisir, on a beaucoup rigolé, il y a eu beaucoup de travail, il y a eu des moments plus durs, il y a eu des scènes plus intenses à tourner, plus compliquées, mais ça a toujours été traversé de joie, de plaisir et d'amitié.
Stéphane, je vais vous poser la même question qu'on pourrait poser à Yvonne. Ben Yvonne. Et là, je le dis Yvonne parce qu'Yvonne a dû faire des choix. Puis je pense que Clotilde, finalement, a fait des choix. Est-ce que vous avez eu à faire ce choix-là entre peut-être des traditions ou des façons de faire qui étaient de la famille et puis moi, je veux faire du cinéma?
Alors, j'ai eu la chance d'avoir une famille un peu plus tolérante sur ça.
Ouais.
C'est-à-dire que, bon, il y a plusieurs circonstances. Je suis le huitième d'une famille de huit. Oh. Donc, je suis le petit dernier. Et du coup, j'avais un peu moins de pression que les aînés. Et comme j'avais aussi, bon, des bons résultats à l'école, mes parents m'ont quand même laissé faire ce que je voulais. Mais les aînés ont suivi des voies plus sérieuses, informatique, etc. Mais voilà, j'ai eu la chance de pouvoir faire ce que je voulais et d'être soutenu par mes parents, mais ce tiraillement, pour moi, c'est important d'en parler parce que même si je ne l'ai pas vécu comme Yvonne, j'ai quand même vécu tous ces questionnements par rapport à l'identité et à la double culture et de se sentir à la fois parfois français, parfois vietnamien, mais en réalité, on est aussi les deux et on essaye de vivre en harmonie avec ces deux aspects de notre identité.
Mais à part d'identité, il y a même un personnage qui savait être homosexuel, vietnamien, français. C'était encore une triple identité?
Exactement, oui. En fait, pour moi, c'était important d'avoir différents profils.
Oui.
J'avais envie d'avoir un genre idéal, mais en même temps un genre idéal pas classique, pas celui qu'on a l'habitude de voir par exemple dans les comédies françaises. Et voilà, et c'était de traiter cette question-là qui est vraiment un sous-thème, hein, c'est pas le thème principal du film, mais de le traiter de façon complètement ouverte et assumée, et ce n'est pas un problème, ce n'est non. pas une problématique, ce n'est pas une question. Voilà, c'est là et ça peut aussi très bien se passer. Et détourner un peu les clichés, de se dire bah, c'est une famille hyper traditionnelle, donc ça va être compliqué. En fait, non.
Ouais, ce que j'aime beaucoup, hein, c'est qu'il n'y a pas de jugement non plus sur le fait que la maman pense d'une façon, Yvonne pense de l'autre, et il n'y a personne qui est bon ou mauvais là-dedans.
Exactement, oui, c'était l'idée de ne pas avoir de jugement, d'essayer de se comprendre et que ouais. les différents mondes se comprennent.
Oui, ça serait une bonne chose si ça fonctionnait dans la vraie vie aussi. Hein. Clotilde, c'était un film quand même qui réunissait un casting très riche, notamment Thomas Joly.
Oui.
Ah, ça a été plaisant de travailler avec lui?
Oui, alors, globalement, c'était vraiment plaisant de travailler avec tout le monde.
Avec tout le monde,
c'était
oui.
vraiment plein de rencontres très différentes, de gens de milieux très différents. Il y en a qui viennent plus du théâtre, d'autres qui ont fait plus d'images. La maman qui, elle, faisait aussi son premier film.
Oui.
Et puis Thomas, c'était son premier rôle en tant qu'acteur, parce qu'on le connaît très bien en tant que metteur en scène.
Oui, oui.
Et voilà, il vient plus de la scène, ça se sent, mais c'était quelqu'un d'extrêmement généreux, très agréable. On sait tous qu'il était en préparation
des Jeux Olympiques.
Oui. Et en fait, il a eu cette disponibilité mentale et artistique, et c'était un vrai plaisir de partager ça avec lui. Parce que voilà, son rôle, il n'est pas si évident que ça. Il n'a pas un rôle hyper, hyper friendly au premier abord.
Pas du
et
tout.
En fait, il a mis beaucoup de subtilité. Il avait beaucoup de questionnements. Il a beaucoup discuté aussi avec Stéphane. On a travaillé ensemble. Puis le trio... Sans tout dévoiler, mais il y a un petit trio quand même qui est aussi assez drôle.
Ah oui, je fais bien attention pour ne pas divulguer. Il nous reste quelques minutes. J'aimerais quand même qu'on parle du fait que le film a reçu le prix du public au Venice International Funny Film Festival en 2024. Ça vous dit quoi, ça?
Eh bien, ça fait plaisir parce que en fait, le film est une comédie, mais c'est pas une comédie classique telle à laquelle on peut s'attendre. Donc c'était en Suisse et c'était vraiment un très bel accueil et de se dire voilà, on peut faire de la comédie, mais tout en racontant des sujets un peu plus profonds aussi.
Par le rire, on peut passer beaucoup de choses.
Je rajoute que c'était étonnant parce que pour moi, c'était le début de la promotion du film et d'être sélectionnée dans un festival de films comiques, je ne l'avais pas imaginé. Et quand ils nous ont dit ben, « en fait, ça marche », je me suis dit « oui, c'est vrai, la comédie, en fait, c'est universel et
Est-ce
ça fait du bien ».
Est-ce que vous êtes retournée à votre cuisine? On va vous voir au cinéma bientôt encore.
Non, je suis retournée dans ma cuisine.
Il est où ce restaurant quand je
Il est à côté de La Rochelle, en fait.
D'accord.
Voilà.
Ben, merci beaucoup à tous les deux. Donc, je parlais avec Clotilde Chevalier et Stéphane Lee Kwong. Je vous rappelle que le film Dans la cuisine des Nguyen commence au cinéma ici le 5 mars. Merci tous les deux d'être venus.
Merci beaucoup.
Après la pause, on va parler de théâtre maintenant. Paquineau, qui joue au Centre du théâtre d'aujourd'hui à Montréal, on va recevoir Soleil Lonnière, et on va parler aussi de Ta gueule, l'obscurité au 4 sous avec Rosalie Leblanc.
Écoutez au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Pas souvent qu'on fait ça, qu'on va pas écouter une chanson jusqu'au bout, mais vous comprendrez qu'on manque un petit peu de temps, puis on voulait avoir le temps de vous faire entendre Soleil Lonnière, qui est une artiste multidisciplinaire inue. Elle présente en ce moment Paquineau à la salle Michel Rossignol du Centre du théâtre d'aujourd'hui, une pièce qui explore la maternité en milieu carcéral, la mémoire du corps et les trajectoires de vie invisibles. Qué, bonjour Soleil.
Oui.
Alors, ben, bienvenue à l'émission. On est content de vous recevoir. Le titre de la pièce, Paquineau, porte une sonorité forte. Qu'est-ce que signifie ce mot, finalement?
Écorcher. C'est être à vif, d'une certaine manière.
Ouais. Ah oui, c'est assez direct. Hein? On a une bonne idée de ce qui se passe. Alors, c'est quoi l'élément déclencheur ou l'image ou le fait divers qui a fait naître l'idée de raconter l'histoire de femmes incarcérées?
Ben, j'étais sur le point de... Je me posais des questions, en fait, sur la maternité. Je voulais avoir un enfant, puis... J'étais avant la relation dans laquelle je suis maintenant, dans une relation plus difficile. Donc, je me suis posé des questions sur qu'est-ce que c'était la maternité pour des femmes qui étaient justement dans cette situation-là, mais aussi qu'est-ce qui se passerait dans un système carcéral. Est-ce que les enfants peuvent rester avec leur mère et tout ça. Donc, il y a eu des grands questionnements de vie qui se sont mélangés à la prémisse, en fait, de ce que j'avais envie de raconter après ça. Mais je me suis surtout intéressée aux enfants, en fait, qui naissaient là. Ouais.
Là, on va quand même mettre les choses au clair. Vous n'étiez pas dans une situation où vous êtes retrouvée vous-même maman dans un milieu carcéral.
Non, pas du tout. Là. J'étais pas maman dans le système carcéral. J'étais dans une relation de violence plus psychologique avant. Puis ça fait que je me suis demandé si j'étais dans cette relation-là encore, en sachant que la violence conjugale augmente quand une femme tombe enceinte.
Oui.
Qu'est-ce qui se serait passé? Puis avoir un enfant dans différentes conditions, en fait. Puis comment est-ce que les enfants peuvent vivre ces expériences-là de différentes manières? Puis... C'est ça, mais non, j'étais pas.
Je préférais le spécifier au cas où que certains auditeurs ou auditrices se seraient posé la question. Parlons justement du programme Mère-enfant au Canada qui permet, sous certaines conditions strictes, donc, à des femmes incarcérées dans des établissements fédéraux de garder leur nouveau-né. Est-ce que vous avez dit utiliser ça, j'imagine, hein? Comment ça fonctionne? Oui, le programme Mère-enfant, vous avez dû peut-être.
Oui.
C'est assez dur hein, comme programme. Les femmes peuvent avoir leur enfant pour un certain bout, puis après ça, l'enfant va ailleurs. Hein?
L'enfant, quand il arrive à un âge scolaire, en fait, il faut qu'il sorte. Il ne peut pas rester avec la mère incarcérée. Mmh. Par contre, dépendamment des crimes là, que la mère a commis, ou c'est quoi la situation spécifique de la mère, c'est dans le cas que moi, je mets en scène, on me disait que c'était très rare qu'une femme resterait en prison pour ce genre de choses-là plus de 4 ans. Donc, c'est quand même de la défense, de la légitime défense. Donc, Donc, c'est ça. Mais oui, c'est quand même, ça peut être difficile, mais je pense qu'il y avait, il y a beaucoup de beauté là-dedans aussi. Oui. La chance de pouvoir avoir son enfant avec soi, puis le lien de la mère puis de l'enfant dans ce genre de conditions-là, donc qui peut être très, très fort. L'enfant n'est pas nécessairement mal parce qu'il est dans le système carcéral non plus, donc je voulais faire ressortir ça, c'est la beauté qu'il peut y avoir aussi pour l'enfant dans ces conditions-là, tu sais.
J'ai l'impression que cette pièce, est, comme beaucoup de pièces de théâtre que je vois depuis un bout de temps, on dirait qu'on met de l'avant des situations puis on essaie d'enlever le jugement que les gens peuvent avoir puis dire « Non, regarde ça d'un autre œil. » Est-ce que je me trompe?
Moi, c'est certain que je veux faire ça, là, oui. Je ne sais pas pour toutes les pièces, mais je pense que c'est important, surtout dans le monde où on est présentement, où est-ce qu'il y a tellement de... je pense qu'il y a beaucoup d'amour, mais il y a aussi beaucoup de mauvaise compréhension des situations diverses. Je pense que c'est important d'infuser de l'amour puis une plus grande ouverture vers l'autre. Donc, ça en fait partie. Ouais.
J'ai lu que, parce que j'ai pas vu la pièce encore, mais j'ai vu que il y a le bison, la figure du bison qui traverse l'œuvre de manière imposante. Qu'est-ce que cet animal incarne-t-il pour vous?
Le bison qui a été une espèce presque décimée au Canada par quand les colons sont arrivés pour éradiquer la race, pour éradiquer les autochtones aussi, pas juste le bison. Donc c'est une manière d'essayer de faire disparaître les autochtones parce que c'était une source de nourriture énorme. Donc pour moi ça faisait un genre de miroir intéressant dans le sens où la femme et la continuation aussi de la race, le bison est matriarcal, donc qu'une femme qu'on enferme ou qu'on met dans le système carcéral ou qui vit de la violence, les femmes autochtones assassinées, disparues, moi c'était une figure quand même forte qui représentait ça aussi. Mmh. L'importance du bison, mais aussi le fait qu'on a essayé tant bien que mal de l'effacer en fait de nos terres.
Il y a de la danse qui est dans cette pièce. On parle de danseur de crump. D'abord, on va expliquer c'est quoi le crump.
Oui, le crump, c'est une street dance, une danse c'est ça, de street. C'est une danse qui est très raw, qui était pour s'exprimer, exprimer toute une forme de pas juste de la colère, là, juste des émotions très fortes, en fait, à travers la danse qui pour moi, était revendicatrice qui exprime quelque chose d'intérieur, en fait, sans avoir recours à... C'est vraiment dans la danse que ça se passe, en fait. C'est que la violence c'est pas dans la violence, là. Au contraire, c'est dans la communauté, l'importance de la communauté là-dedans, etc. Puis ça exprime des émotions qui sont très raw aussi, très, très crues, très vraies. Puis je trouvais que c'était un beau narratif de l'intérieur des enfants, mais aussi que ça vient comme ajouter le narratif de leur émotion intérieure, mais aussi du futur, de comment est-ce qu'elles se voient. Puis c'est deux enfants, en fait, qui s'interchangent le rôle de 10 et 11 ans, donc qui font ça, deux garçons. Fait que c'est comme l'intérieur de ces femmes-là, mais aussi le père, c'est aussi les futurs enfants qui vont venir. Donc, pour moi, d'être exprimé de cette manière-là, très raw, très...
Ça semble être une belle image qu'on pourrait dire. Hein. Bon, vous êtes une artiste innue, mais vous refusez d'enfermer, excuse-moi le mot, mais de faire de Pakuneu une lecture uniquement identitaire. Comment vous travaillez pour que les enjeux de violence et de maternité résonnent de manière universelle, tout en restant quand même ancré dans une démarche qu'on peut dire décoloniale?
C'est certain que même si j'essaie de pas rester, d'être dans l'univers, la, l'univers,
Universalité,
bon,
oui.
Il est tôt un matin, on est
Il n'y a pas de problème.
Excuse-moi, je parle, mais ouais. D'être universel, le récit est ancré dans moi, là. C'est moi qui l'écris. C'est sûr que le narratif est quand même autour de la femme autochtone. J'ai trois interprètes qui sont de diverses origines. Pour moi, c'était important pour justement aller voir toutes les formes de toutes les femmes, en fait, dans ce système-là. Je pense que mon texte est très universel, même si on n'a pas vécu ces choses-là. On parle du territoire, de comment est-ce qu'ils se reconnaissent dans la rue, les choses qu'on dit, qu'on ne dit pas, pourquoi est-ce qu'on choisit de pas dire des choses des fois. Pour moi, tu sais, c'est tout ancré dans cette quête-là identitaire qu'on a tous, en fait, d'une certaine manière. Fait que ça devient universel dans cette façon-là. Puis pour moi, c'est important de toujours essayer justement d'apporter une manière décoloniale de faire l'art, d'apporter mes interprètes aussi à penser autrement certaines choses, à bouger autrement. Le fait que ce soit multidisciplinaire aussi toujours, je vais pas me bloquer dans une seule forme, mais de voir ça comme plus un tout où tout se parle, tout connecte. Et je pense que dans cette idée-là aussi, ça connecte avec les gens autrement. Donc
Moi, je vais terminer.
C'est aussi dans notre manière de travailler ensemble.
Ben oui. Cette pièce donne l'impression, finalement, que, pour reprendre, je pense que c'est un dicton des premiers peuples. Je ne sais pas si c'est nous, mais on ne connaît jamais l'histoire de quelqu'un sans avoir marché un mille dans ses mocassins. J'ai l'impression qu'on est en train d'apprendre que, peut-être, à première vue, quelqu'un semble d'une façon, mais on ne sait pas vraiment qui ou qui elle est ou qui il est. Alors, Soleil Launière, merci, merci, merci infiniment d'avoir été avec nous. Puis je rappelle que la pièce, donc, est présentée du 25 février jusqu'au 7 mars à la salle Michel Rossignol du Théâtre d'aujourd'hui. Puis vous partez en tournée en Europe à la fin mars.
Oui.
On est au courant de tout ici.
Exact.
Mais bon succès là-bas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Soleil.
Merci à vous.
Merci.
Au plaisir. Au revoir.
Tu sais, encore hier soir, je me demandais si parfois tu penses à ce que t'avais, ou même un peu à ce que tu avais. Je garde le sang-froid, j'écris dans mes notes que je ne peux pas dire à haute voix quand tu es là, car j'ai bien appris que contre je me revois assise en silence encore une fois, terrifiée par le son de ta voix et deux yeux brillants qui ne comprennent pas. Et au fil des saisons, sous ce toit il y a plus de maison, les murs sont froids, les briques tombent comme tout.
Alicia Moffat et sa chanson Indemne.
Le théâtre de Katsu accueille du 14 février, en fait depuis le 14 février jusqu'au 14 mars, la pièce « Ah, ta gueule, l'obscurité ». J'aime ça, ça me permet de dire des choses que je pourrais pas dire en ondes. Alors, vous avez entendu justement la comédienne, une des interprètes, la comédienne Rosalie Leblanc, avec qui on va jaser de cette pièce. Bienvenue à l'émission,
merci,
Rosalie.
Merci, merci. Puis juste pour préciser, en fait, on commence demain, donc du 24 février au 14 mars.
Ah, j'avais une faute sur ma feuille.
Pas donc, de souci, hey, aucun problème.
Merci. C'est, non, mais c'est bien de corriger quand on se trompe, là, puis on n'est pas à l'abri de ça. Alors, juste rappeler que c'est une pièce qui est écrite par le dramaturge britannique Sam Steiner. La pièce, donc, c'est la première œuvre de cet auteur qui est produite à Montréal. Puis là, je vais quand même donner quelques détails pour qu'on puisse parler d'autre chose. La traduction québécoise est signée par Maxime Allen, qui avait également traduit la pièce précédente de la compagnie qui s'appelait LG.
Oui, Elgi.
Ou
Elgi, Elgi. Ouais.
Le théâtre à l'eau froide, j'aime bien le titre de cette pièce, de cette compagnie, célèbre sa deuxième année en résidence au Quatsou avec cette production, mise en scène de Daniel Damour, comédie noire qui nous transporte dans un centre d'appel à l'aube de la fin du monde. J'en dis pas plus. Rosalie, bienvenue donc encore à
merci
cette émission.
Beaucoup.
Pour commencer, comment décrirais-tu l'ambiance qui règne dans ce centre d'appel alors que l'air extérieur devient irrespirable et que les ponts s'écroulent?
Bien, c'est ça qui est particulier, puis on est vraiment dans une dramaturgie britannique, parce que malgré l'espèce de noirceur, finalement, de cette prémisse-là, bien, il y a énormément de lumière puis énormément d'humour, en fait.
Ouais.
Fait qu'on suit quatre bénévoles, donc des gens qui n'ont rien à voir là, dans la vie, qui se côtoient juste dans ce lieu-là, finalement. Puis c'est vraiment leur rencontre, en fait. Donc, on a une espèce de John, un espèce de gars très pessimiste, en fait, très lucide, dont le regard sur le monde est très sombre, mais donc ça l'empêche parfois un peu de connecter, parce que quand il n'y a pas d'espoir, bien, ça sert à quoi de lier des relations. On a un Julien, en fait, qui a 17 ans, qui est très, très jeune, donc qui débarque là-bas, qui se fait un peu materner par mon personnage, qui est Sophie, qui est la responsable du centre, qui est en fait tiraillée entre la vision de Sophie, qui est très positive, optimiste, qui essaie de voir le beau, et celle de John, qui est très sombre. Puis on a le personnage interprété par Romy Bouchard, qui s'appelle Camille, qui est vraiment mystérieuse, est vraiment dans sa tête, elle a une vie très, très riche et très étrange aussi. Donc, c'est vraiment la rencontre de quatre solitudes un petit peu, mais ça se fait avec beaucoup de lumière, beaucoup d'humour aussi.
Alors là, j'ai juste entendu la description de ce que moi j'appelle une comédie de mœurs, où ce sont les personnages et non pas les situations qui font que c'est drôle. On est vraiment dans l'humour britannique. Et
100%.
Ça se rapproche de nous autres au Québec, j'ai l'impression.
Ah, 100%. Puis c'est ça la force aussi de la traduction de Maxime Allen, c'est qu'il arrive à prendre la langue britannique, mais là, sa traduction québécoise, c'est plein de québéquismes qui sont vraiment tellement le fun à jouer, en fait. On est dans une langue extrêmement parlée, très, très, très punchée. Donc ça, c'est vraiment le fun parce que c'est très vivant, en fait. Je pense que les gens vont s'entendre sur scène.
Oui, parce que les Britanniques ont cette idée, hein, ils amènent les choses à l'extrême. On pense que c'est la joke qui est finie, mais il continue encore, c'est à peu près ça.
Oui.
J'ai hâte de voir ça. Je pense que je vais la semaine prochaine voir cette pièce. La pièce est écrite comme une partition musicale polyphonique, ça, je reprends le communiqué qu'on m'a envoyé, où vous gérez parfois trois conversations en même temps. Oh, c'est vraiment britannique, ça.
Ah oui, bien, c'est un engrenage, là. C'est-à-dire que dès que la première réplique se dit, bien là, c'est un feu roulant, un petit peu. Donc, ouais. Ça exige un rythme, ça demande une écoute aussi des autres qui est vraiment particulière, parce que justement, tu sais, la pièce commence, on est trois personnes au téléphone et on a aussi des conversations entre nous. Donc, tu sais, le texte, là, quand on le lit, il est divisé en trois colonnes.
Ah,
donc, ça demande vraiment une mécanique. Tu sais, c'est très exigeant là, comme comédien, cognitivement, de jouer ce texte-là, mais c'est tellement agréable une fois qu'on l'a. Puis les conversations téléphoniques se répondent. Donc, moi, je réponds à une personne, mais ça fait écho à ce que quelqu'un d'autre est en train de dire sur le plateau.
Wow.
Donc, c'est vraiment une symphonie.
Ça doit demander toute une discipline de travail. Là.
Oui, tu sais, pendant longtemps, les comédiens étaient comme, c'est une énorme partition, en fait. C'est une chance de jouer ça, mais tu veux bien le rendre aussi sur scène, tu sais.
Puis, il y a les rires, quand on joue, il y a les rires des spectateurs qui vont arriver là-dedans. J'espère que ça ne va pas trop déconcentrer les gens, mais je pense que vous êtes habitués. Hein?
Exactement. Bien, on a un bon public en répétition déjà, fait qu'on gère ça là, pour l'instant.
Le texte aborde des thèmes très personnels, comme la maternité, la santé mentale, au milieu d'une catastrophe globale. Alors, comment ces enjeux intimes résonne-t-il avec l'effondrement du monde extérieur? Parce que je comprends bien, ça se passe pendant que c'est la fin du monde, pratiquement. Là.
Exact. Bien, c'est ça, on n'en sait pas beaucoup hein, sur cette fin du monde-là, le texte. Fait que si vous êtes des grands fans de dystopie, là, par exemple, vous n'en saurez pas beaucoup sur ce qui arrive à l'extérieur. On sait que Brossard est rendu une île, fait qu'on imagine qu'il y a une montée des eaux. On sait que les ponts sont tombés.
On l'a vraiment adapté, là.
Oui, oui, exactement. Okay. Ça se passe vraiment à Montréal. Fait qu'on n'en sait pas beaucoup. Donc, la seule chose à laquelle on a accès, finalement, c'est à la réaction de ces personnages-là. Donc, moi, par exemple, je joue Sophie, la responsable du centre, qui est enceinte de 7 mois, puis on comprend que ben, ça fait des années, en fait, que les gens font plus d'enfants, vu l'état du monde, mais elle, elle porte cet enfant-là, puis les autres bénévoles trouvent ça étrange qu'elle ait fait ce choix-là, le questionnent, ce choix-là. Donc, elle, elle porte ce désir-là, finalement, de transmettre, de vivre la maternité, mais dans un monde où tout s'écroule. Fait qu'il y a quelque chose de très étrange. Tu sais, j'ai l'impression que les gens, au début, pensent qu'elle est un peu dans le déni de la situation. Mais en tout cas, moi, je m'identifie beaucoup à ce personnage-là, personnellement, parce qu'il y a quelque chose de, ben, la vie continue.
Ouais. T'sais. C'est intéressant, parce que justement, j'allais aller là, c'est donc les personnages qui évoluent au sein d'une équipe de 4 bénévoles dans un centre d'appel. D'ailleurs, là, je te dis tout, j'ai la tête pleine de questions, mais un centre d'appel, 4 bénévoles, alors que le monde s'écroule. C'est quelle sorte de dynamique là, vous voyez, là, vous faites là-dedans? Là?
Oui, bien, premièrement, c'est ça, c'est un centre d'appel, mais c'est une ligne d'écoute. Fait que, tu sais, on s'imagine que, justement, dans ce monde-là qui s'écroule, des gens en détresse, bien, il y en a énormément.
Ah,
donc,
oui. Un plus deux, oui.
Exact. Je pense à un moment, par exemple, où le personnage de Camille est au téléphone avec une très jeune fille de 16 ans, en fait, puis on comprend que cette jeune fille-là a perdu complètement espoir, puis ça fait écho avec le personnage de Julien qui a 17 ans, qui lui vient justement répondre aux appels téléphoniques. Donc, il y a comme quelque chose de très chargé quand même. Puis justement, on passe d'un humour très tranchant à des moments de connexion humaine, de simplicité, de vérité qui sont vraiment, je pense, assez bouleversants. Là, en tout cas, nous, de l'intérieur, c'est comme ça qu'on le vit. Puis, tu sais, ça nous touche encore après autant de répétitions. Le metteur en scène aussi, l'équipe du 4 sous. Fait que je pense que les spectateurs vont être touchés de ces relations-là qui sont un petit peu improbables, mais qui sont vraiment magnifiques. Puis finalement, je pense que c'est ça l'espoir que porte un peu la pièce, c'est de se dire, ben ensemble, tu sais, on est des humains, puis il y a un désir d'humanité, il y a un désir de rencontre, de réel dialogue. Je pense que ça, c'est très fort dans la proposition.
Encore une fois, à chaque fois, j'ai l'impression qu'on est tellement dans l'actualité. Ce besoin d'humanité, présentement, c'est pas rien, là.
Oui, c'est ça, mais en même temps, on peut se dire que c'est peut-être un peu naïf, des fois, de se dire, ah ben on a besoin d'humanité.
Ça l'est pas.
Non, c'est ça. Bien, y a toutes sortes de luttes, hein. Ouais. Autant les luttes militantes sont ultra importantes. On n'est pas du tout là-dedans, dans ce texte-là. Non. On n'est pas dans quelque chose de frontal. On revient plus aux humains, dans cette lutte-là du quotidien, de il faut continuer à vivre, il faut continuer à se parler, à essayer de se comprendre.
Faire preuve d'humanité, ce n'est pas naïf. Alors moi, je le dis à cette antenne, ce n'est jamais naïf de faire preuve d'humanité puis de chercher à retrouver cette humanité. Le titre, « Atelier l'obscurité », j'ai lu que c'était donc tiré d'une réplique de Charlie Brown.
Oui.
Qui suggère donc une forme d'optimisme dont on vient de parler. Est-ce qu'on pourrait dire que les personnages font preuve de courage ou de déni?
Ah, c'est un mélange des deux, ouais. je pense, parce qu'il y a des moments où on sent le déni, mais il y a des moments où les masques tombent, en fait, puis on arrive dans leur vérité, leur désespoir. Même mon personnage, qui est très positive, là, elle craque à un moment. En fait, dans la ligne de tous les personnages, il y a une espèce de masque social, hein? Donc, même pour John, qui est le pessimisme, bien, en fait, son pessimisme, sa lucidité l'empêche, en fait, d'être en contact à certains moments avec la vraie détresse qui l'habite, puis son vrai regard sur le monde. Fait qu'autant dans l'optimisme que dans le pessimisme, finalement, il y a une forme de déni du sentiment intérieur, en fait. Fait que je pense qu'ils font preuve de beaucoup de courage, là, parce que le décor aussi agit comme personnage dans la pièce. Fait qu'il va vraiment être mis à mal, ce décor-là, j'en dirai pas trop. Mais on sent que ça devient presque impossible, en fait, pour les personnages de venir travailler dans ce lieu-là, mais ils persistent. Donc, ils reviennent semaine après semaine, même si on sent que l'état du monde se dégrade, même si on sent que l'état du bureau est plus fonctionnel, ils décident de revenir, fait qu'ils font preuve de courage puis d'un désir très fort, en fait, d'aider les autres.
Tu as tellement répondu à plusieurs questions que ça avait, mais non, c'est correct, hein? Mais je vais quand même revenir sur le décor, parce que j'ai l'impression que ce décor-là joue un rôle, puis comment il influence le jeu, ton jeu à toi pendant la représentation?
Oui, c'est ça. Bien, tout d'abord, je veux dire que c'est un décor de Caroline Bourgon-Sicard, puis c'est Mayumi Hyde-Bergeron qui a fait les accessoires, parce qu'il y a énormément d'accessoires aussi, ils sont super importants, mais... C'est ça, tu sais, on parlait de polyphonie au début, puis d'une espèce de partition musicale. le décor participe beaucoup à ça. Moi, personnellement, je joue la responsable de la ligne d'écoute. Donc, je suis aussi responsable de l'espace. Donc, ça devient, oui, au niveau des voix, une espèce de polyphonie, mais avec le décor aussi. Donc, on joue vraiment avec lui, on l'habite vraiment, on mange pendant le spectacle. On, tu sais, c'est très... Il y a quelque chose de quand même... c'est très théâtral, mais il y a quelque chose quand même de très réaliste au niveau du lieu. Puis, je pense que même quand toute l'équipe du Katsu a vu le décor, c'est un décor qui est vraiment grandiose. Mm-hmm. Moi, même à l'école de théâtre, où on a des... les budgets sont plus grands parce que ben, c'est les étudiants qui font les décors. Donc, il y a moins de main-d'œuvre, etc. J'ai jamais joué dans un décor qui est aussi... qui est aussi grand, qui est aussi prestigieux, tu sais, il y a une mezzanine, tu sais, il y a des escaliers, donc il y a plein de petites cascades aussi dans le spectacle, donc c'est vraiment un plaisir. C'est ça, c'est comme quand je parlais de l'engrenage au début, c'est ça, dès que ça commence, là, c'est un engrenage tant physique qu'au niveau de la parole.
Ouais, alors des cascades.
Ouais, ben des petites cascades.
Ouais, quand même. pas de danger de se casser une jambe ou un pied comme est arrivé à Guillaume Lambert.
Non, quand même, mais quand je répétais une micro-cascade que j'ai à faire, j'ai fait la référence, j'ai dit j'espère que je vais survivre à la pièce, mais finalement ça va très bien.
Ah, moi, j'en ai
c'est
vu,
très sécuritaire.
J'en ai vu à Agamemnon in the Ring, là, je me suis dit mais comment ils font pour pas se péter la gueule parce que c'était des cascades.
Oui, ben c'est de l'entraînement, l'entraînement. Hein, c'est ça, vraiment.
En tout cas, vous autres, j'en reviens pas. C'est des répétitions après répétitions. Écoute, ça fait donc un petit bout de temps que vous répétez. Vous êtes prêts pour la première demain. Qu'est-ce que tu souhaites que les spectateurs retiennent ou quel message tu voudrais qu'ils retiennent ou qu'ils prennent avec cette pièce?
Ah, ben je pense que il faut accepter d'être en contact avec notre vulnérabilité en ce moment. Puis au-delà de ça, je pense que on partage un même sentiment en ce moment sur l'état du monde. Fait que je pense qu'il faut essayer d'être ensemble, de le partager, puis essayer de se comprendre. T'sais, on évolue beaucoup dans des chambres d'écho. Puis c'est ça qui est beau à travers ces quatre personnages-là qui sont de divers horizons, c'est qu'ils arrivent à se rencontrer, à se parler, puis à s'aimer. Un peu comme une famille maladroite, là.
Ouais.
Fait que je pense que c'est ça, comme allons vers les autres.
Ce qui n'est pas toujours facile ces jours-ci. Rosalie Leblanc, merci beaucoup. Je rappelle que donc tu vas être sur scène à compter de demain avec la pièce « À tailleul l'obscurité », une production du théâtre « À l'eau froide ». On a-tu le temps? Oui, on a le... C'est quoi? Pourquoi ce titre-là, « À l'eau froide »?
Je pense que je ne suis pas membre de la compagnie. Là. Elle est composée de Daniel Damour, le metteur en scène, Karianne Héroudani, Étienne Marquis et Hélène Rioux. Mais je pense que c'est vraiment le désir de se pitcher un peu dans l'inconnu.
Une bonne douche d'eau froide.
Exact.
Hein?
Puis avec la dramaturgie étrangère sur laquelle il travaille, c'est toujours ça, donc c'est de découvrir des nouvelles affaires sans avoir peur là, du petit frisson initial que ça provoque.
Donc c'est présenté au théâtre donc de Katsu à partir du 24 février. Demain, j'ai la bonne date là-dessus jusqu'au 14 mars. Merci beaucoup.
Ben, merci à toi.
Alors, je vous rappelle que si vous nous écoutez dans les provinces maritimes, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Îles-Prince-Édouard, ben, attendez-vous à une bonne tempête de neige dans les prochaines heures, prochains jours, avec des accumulations autour de 15 à 25 cm de neige. Et puis, ben, dans le reste du pays, c'est plutôt froid, mais quand même, c'est tolérable. Et puis, c'est de la pluie sur la côte ouest. Je vous remercie donc et je remercie l'équipe Mathieu Tessier à la régie. Merci beaucoup à Hélène Denis qui m'a aidé à la recherche. Hélène qui est en vacances, donc je la remplace jusque, ben, pour les deux prochaines semaines. Et je vous redonne rendez-vous. Mathieu, t'es pas fin de me faire rire à la fin d'une émission. Il me reste 15 secondes pour vous dire que j'ai un prochain rendez-vous à 17h ce soir pour l'heure où l'arc-en-ciel se lève. À bientôt.